Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gaëtan Gors, qui est parlementaire honoraire, chercheur à Social Iris et spécialiste des questions migratoires et également de la criminalité organisée. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Alors un événement tragique dans la Manche, 27 morts, qui a vraiment ému la France entière. Et je dirais pourtant, ce n'est pas la première fois, le nombre est plus important que d'habitude, mais en fait, chaque jour, il y a des gens qui disparaissent et qui meurent dans la Manche ou dans la Méditerranée.
Oui, alors c'était malheureusement plutôt la Méditerranée ces dernières années. La Manche, pourquoi ? Parce que les autorités françaises et britanniques, dans le cadre de l'accord du Touquet, ont renforcé les contrôles, qui étaient déjà extrêmement forts sur le passage de la frontière, qui se fait côté français. Ces contrôles, depuis l'accord du Touquet, se font côté français. C'est particulier, mais c'est ce qu'on a accepté depuis presque une vingtaine d'années. Et le renforcement des contrôles se traduit évidemment immanquablement par des tentatives un peu désespérées de franchissement de cette frontière. Par la mer, dans des conditions souvent extrêmement dangereuses, évidemment très mal garanties par les passeurs, avec les catastrophes qu'on a observées, mais qui ont tendance à se répéter. On n'est pas aux chiffres ou aux milliers de morts qu'on peut observer en Méditerranée depuis plusieurs années, mais enfin on commence à avoir des données plus que préoccupantes, avec, et c'est ce qui me frappe, une tendance néanmoins des pouvoirs publics à considérer que la réponse à ces questions, et c'est un élément de la réponse, mais c'est uniquement la lutte contre les passeurs, et c'est la répression contre les réseaux de passeurs, alors qu'évidemment, le problème a une dimension beaucoup plus large.
Alors, beaucoup plus large, qu'est-ce que l'on devrait faire? Certains ont dit qu'il faudrait renoncer, dénoncer les accords du Touquet. Est-ce que c'est possible juridiquement? Est-ce que ça aurait un impact négatif? Peut-être pouvez-vous rappeler à grands traits ce que disent ces accords qui ont été signés en 2003?
Oui. Signé puis renouvelé, c'est-à-dire élargi quelques années plus tard. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, considérait que c'était la seule réponse possible que l'on pouvait apporter pour éviter justement les concentrations de personnes sur les côtes françaises. C'est le contraire qui s'est produit, puisque les accords du Touquet transfèrent au fond à la police française le soin de veiller aux frontières britanniques, puisque le contrôle s'effectue côté français au départ et non pas côté britannique à l'arrivée. Les Britanniques financent la mise en place de dispositifs de surveillance. Ils interviennent même d'ailleurs parfois, ce qui pose un problème en termes de souveraineté, c'est une exception assez rare, ils interviennent eux-mêmes parfois dans les contrôles du côté français, financent du matériel, financent des systèmes de contrôle, financent des barbelés, financent toute une série de choses qu'on voit quand on va à Calais et qui sont impressionnants et qui ont transformé cette frontière un peu encore retranchée.
Donc on fait de la sous-traitance pour
oui, absolument. Les Britanniques. C'est assez curieux. Alors, on l'a fait dans le cadre de l'Union européenne. On pourrait se demander pourquoi on continue à le faire maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. C'est une question qu'il est difficile de comprendre.
Est-ce que le Brexit pourrait rendre juridiquement caduques les accords du Touquet?
Je me souviens qu'un candidat à la présidence de la République en 2017, un peu avant, au moment où il y avait déjà des premières difficultés étaient apparues, puisqu'on commençait, on démantelait à nouveau les camps qui se trouvaient autour de Calais. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, avait entamé ce processus. Un candidat qui est devenu président depuis avait indiqué qu'il faudrait remettre en question, si les Anglais sortaient de l'Union européenne, remettre en question ces accords. Je pense que la question doit être posée, non pas qu'on puisse remettre, évidemment, ce ne serait pas responsable du point de vue de la gestion des affaires publiques. En tout cas, nous, on doit être responsable si nos partenaires ne le sont pas toujours. On ne peut pas remettre en question ces accords comme ça, s'inédier, sans aucun examen. En revanche, exercer une pression sur le gouvernement britannique, en lui expliquant que nous ne pourrons pas maintenir ce degré de surveillance et d'intervention s'ils ne font pas des efforts pour ouvrir des canaux d'accueil en direction des migrants qui, depuis leur sortie de l'Union européenne, ont été fermés. C'est-à-dire que lorsqu'en 2017, par exemple, les camps ont été démantelés, notamment le camp de Calais, ce qu'on appelait la jungle, les Britanniques avaient accepté d'accueillir un peu au compte-gouttes, mais enfin les migrants qui avaient déjà de la famille au Royaume-Uni, notamment les enfants qui pouvaient être isolés, c'est 3000 personnes à peu près qui ont été accueillies dans ce cadre-là en quelques années, c'est pas grand-chose, mais aujourd'hui c'est plus personne, ce qui fait qu'on renvoie toutes ces personnes aujourd'hui à des solutions qui sont celles qu'on a connues et qui ont débouché sur le drame de l'autre jour. Alors je pense qu'il faudrait se servir de ces accords en disant nous ne pouvons pas et nous n'appliquerons pas ces accords de manière aussi ferme que vous le souhaitez s'il n'y a pas un effort de votre côté pour apporter des réponses sur le fond, c'est-à-dire qui explique qu'il y a une pression telle, parce que ce qu'il faut bien mesurer, c'est que c'est pour ça que la réponse en termes de répression des passeurs n'est pas adéquate, elle ne l'est jamais d'ailleurs de manière générale sur les questions de migration. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il y a une demande extrêmement forte, les hommes et les femmes et parfois les enfants qui sont là veulent passer de l'autre côté. côté de la Manche. C'est une volonté qui est la leur, qui s'est manifestée par les milliers de kilomètres qu'ils ont franchis pour arriver jusque-là. Ils ne se laissent pas arrêter dans leur détermination par les préoccupations qu'ils ont
acceptées par les uns et par les autres. Si on en accepte quelques-uns, ça ne suffira pas, puisque le nombre de gens qui veulent passer est important et peut grossir. Il y a plein d'autres candidats qui sont prêts. Donc, on entend souvent cet argument en disant que si on commence à accepter certaines personnes, loin de tarir le flux, ça va le compter.
Oui, enfin, moi, je pense qu'il faut prendre il faut parler vrai sur ces questions et prendre la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a déjà des milliers de personnes qui sont dans le nord de la France et qui souhaitent franchir cette frontière. Il faut donc, et qui aujourd'hui le font au risque de leur vie avec les conséquences auxquelles on a assisté récemment. Et on aura sans doute d'autres incidents, d'autres drames de cette nature. Donc, je pense qu'il faut essayer de traiter la question sur le fond. Et la traiter sur le fond, c'est d'abord réouvrir quelques canaux permettant le passage d'une immigration d'une ce point de vue légalisé, c'est-à-dire qu'ils puissent rejoindre normalement le territoire du Royaume-Uni. Évidemment, le gouvernement britannique ne veut pas le faire pour des raisons purement politiques. On est là confronté quand même à un cynisme politique tel qu'on en a rarement vu sur des sujets de cet ordre, puisqu'ils sont allés jusqu'à, le gouvernement, la Chambre des communes a été jusqu'à voter une loi sur la proposition de son ministre de l'Intérieur qui autorise de renvoyer à la mer les personnes qui seraient interpellées lorsqu'elles débarquent.
C'est contraire aux lois de la mer.
Qui plus est. Donc on est là dans des situations où on voit bien que ce qu'on traite, ce n'est pas vraiment la réalité du sujet, mais c'est, la construction politique qu'on en a faite, ou qu'on subit d'ailleurs, et par rapport à laquelle on essaie de se définir. Donc, il faut apporter des solutions concrètes. Il y a là des milliers de personnes qui souhaitent traverser, et on n'apportera pas de solution simplement en renforçant la répression, à la fois sur ces personnes et sur les passeurs, parce qu'il se trouvera toujours des hommes ou des femmes, soit pour des raisons humanitaires, soit attirés par l'appât du gain, qui leur permettront, au risque de leur vie le plus souvent, de franchir ces frontières ou tenter de le faire. Donc je crois qu'il faut déjà se placer dans cette situation. Après, il faut bien comprendre quand même que les trois quarts des réfugiés, enfin des migrants qui sont là, ils n'ont pas le statut de réfugiés, proviennent de zones du monde dans lesquelles des conflits extrêmement durs sont enclenchés, sont engagés. Donc la question se pose aussi, si on remonte le fil jusque-là, c'est-à-dire quelle est la responsabilité que nous sommes prêts à assumer par rapport aux conflits auxquels nous avons participé, que nous avons nous-mêmes déclenchés. Quand je dis nous, je veux dire plus globalement la coalition occidentale, si on peut considérer qu'elle a une réalité, mais dans laquelle la France a été impliquée à certains moments. C'est l'effet, c'est la conséquence directe des conflits auxquels nous avons participé, et sur lesquels d'ailleurs nous étions prêts encore à intervenir, puisqu'on a évoqué par exemple la possibilité pour la France d'intervenir en Syrie au moment où des bombardements avaient été envisagés après l'utilisation
d'énergie. Justement, nous ne sommes pas intervenus, il y a beaucoup de Syriens qui veulent venir en Angleterre ou rejoindre. Enfin, il y a les conflits effectivement qui ont été créés par le monde occidental, Irak, Libye, mais d'autres qui échappent à cette logique. Les Érythréens ou Éthiopiens qui fuient leur pays ne fuient pas en fonction des guerres menées par l'Occident.
La majorité sont des Syriens, des Afghans, des Irakiens qui aujourd'hui souhaitent passer, des Kurdes, évidemment beaucoup, pour lesquels aucune solution diplomatique n'est jamais envisagée autrement qu'en les utilisant dans certains conflits au service des intérêts qui peuvent être les nôtres. Si on ne traite pas ces questions sur le fond, il sera difficile d'apporter des réponses, me semble-t-il.
Oui, mais Gaëtan, tu sais bien que avant qu'on ait résolu la question syrienne, irakienne et libyenne, il va y avoir des flux importants quand même.
Pourquoi j'emploie cet argument? C'est parce que je dis qu'il faut être cohérent. À partir du moment où on prend un nombre de décisions qui ont des conséquences immédiates en matière géopolitique et militaire sur ces terrains d'action, il faut assumer les conséquences que cela produit. Il faut sentir une responsabilité. Je considère donc qu'au-delà de la crainte entretenue d'une immigration qui viendrait nous submerger, nous avons une responsabilité par rapport à des populations dont nous avons contribué à déstabiliser la situation. À ça s'ajoute une responsabilité particulière du Royaume-Uni, dans la mesure où s'il y a une demande forte pour le Royaume-Uni, c'est lié à deux choses. La première chose, c'est que très souvent, ces populations sont d'origine anglophone et par conséquent souhaitent rejoindre un marché du travail qui correspond plus à leurs critères culturels et de langue. Et ensuite, parce que le Royaume-Uni aujourd'hui est confronté, du fait du Brexit, à une situation de pénurie de main-d'œuvre qui crée une demande de la part des employeurs britanniques qui se traduit aussi par la mise en place de réseaux sur lesquels les passeurs, évidemment, viennent se greffer. C'est-à-dire que tout cela n'est quand même pas une opération qui se fait de génération spontanée. C'est quand même le résultat de processus très complexe dans lequel nous sommes pour une part impliqués.
On a quand même l'impression qu'on est fait face à une situation bloquée. Le drame a ému beaucoup de personnes, mais peu avant, il y avait quand même une chasse aux réfugiés, les tentes qui étaient détruites, etc. Donc, ça fait une pression pour qu'ils partent. On a quand même du mal à voir. Alors, bon, et si les Anglais en acceptaient un peu plus, mais est-ce que ça suffirait à régler le problème?
Non, je pense pas qu'on... Le problème, alors, si on prend plus globalement le problème de la migration, on a à peu près dans le monde aujourd'hui un peu moins de 300 millions de personnes qui sont considérées comme migrants, c'est-à-dire qui vivent dans un autre pays que le leur depuis plus d'un an, grosso modo. On ne sait pas mesurer les flux, hein, on peut donner ça le nombre. Les flux, on ne les mesure pas parce que les gouvernements ne donnent pas, à part les gouvernements européens, ne donnent pas les chiffres d'entrée et de sortie qui permettent de calculer exactement les flux de migration. Mais grosso modo, c'est cela. Sur ces, on va dire 300 millions pour aller vite, 30 millions sont dans une situation qui relève plus ou moins du statut de réfugié. Et se présentent à nos frontières, aujourd'hui en moyenne, à peu près 300 000 qui peuvent être conduits à entrer de manière irrégulière sur le territoire ou accéder de manière irrégulière pour déposer une demande d'asile. Donc on est quand même sur des... Alors on n'est plus dans la situation de 2015-2016 où évidemment ces chiffres étaient beaucoup plus importants, mais on est quand même sur des nombres qui restent... il faut les ramener à la réalité. La population étrangère en Europe, c'est de l'ordre de... Si on élimine évidemment les ressortissants de pays européens vivant dans un autre pays de l'Union européenne, c'est de l'ordre de 5% en moyenne, c'est à peu près de 7% pour la France, un peu plus en Allemagne, mais on est quand même sur des proportions qui sont relativement modestes. Il faut donc remettre cette question dans cette perspective.
Mais pourtant, qui ont des effets politiques extrêmement importants.
Bien sûr, ça a des effets politiques importants parce qu'il y a évidemment une crainte de voir ce mouvement s'accentuer, et il a augmenté depuis une dizaine d'années. On n'a pas le moyen de mesurer les flux, mais on s'aperçoit tout de même que ce nombre de migrants que j'évoque a augmenté de près d'un tiers au cours des dernières années, c'est-à-dire depuis la reprise de l'activité après la crise de 2009 qui avait interrompu ces mouvements, il y a une reprise qui s'est à nouveau ralentie avec le confinement, mais c'est quand même une augmentation significative. On est sur un mouvement qui est estimé grosso modo par les spécialistes à 3% d'augmentation par an de ces flux aujourd'hui, ce qui en valeur absolue n'est pas considérable, mais qui évidemment a des conséquences directes sur l'équilibre des sociétés qui sont déjà, elles, déstabilisées, notamment la nôtre, par un chômage important, d'autres difficultés qui sont liées à la difficulté à se projeter dans l'avenir, à imaginer ce que cet avenir va être, et donc ça alimente évidemment ces angoisses et ces craintes. Pour autant, l'essentiel de ce mouvement de migration que je décrivais est un mouvement qui est parfaitement intégré à l'économie mondiale. J'évoquais les 30 millions de réfugiés qui sont ceux sur lesquels évidemment les problèmes sont les plus vifs, mais pour l'essentiel, la migration est un mouvement qui est parfaitement organisé et intégré par l'économie, c'est-à-dire que les migrants que je cite sont des gens qui, dans la plupart des pays où ils sont installés, notamment en Europe, mais aussi en Asie, puisque ce sont les deux pôles les plus importants, et après les États-Unis, sont des gens qui sont parfaitement intégrés à l'économie nationale, aux économies de ces régions, et qui y participent. Le problème qui suscite les interrogations et les craintes, c'est un problème qui se situe à la marge de ce mouvement général, mais ce que je veux dire par là, c'est que puisqu'il s'agit d'un mouvement général, de mobilité des populations, il faut bien comprendre que ce dont on a à traiter et qui suscite les interrogations et les angoisses est un phénomène presque périphérique au regard du mouvement qui s'exerce. C'est-à-dire, on a tendance à confondre les migrations, à considérer que lorsqu'on parle de migration irrégulière, d'arrivée d'irréguliers, de réfugiés, on a réglé la question des flux migratoires. Non, ça c'est la partie, j'allais presque dire, marginale, périphérique d'un phénomène plus complet qui s'appelle la mondialisation et dans lequel les mouvements de population sont intégrés à une hauteur relativement limitée, 3 à 3,5% de la population mondiale, mais enfin un phénomène qui a son existence parfaitement intégrée. Donc nous avons à traiter ces difficultés spécifiques liées notamment au désordre dans le monde qui sont parfois provoquées par nos interventions et en règle générale liées aux problèmes économiques, aux problèmes de la faim, aux problèmes de la situation militaire ou dictatoriale de certains États et pour lesquels nous n'avons plus les outils appropriés. C'est-à-dire que la Convention de Genève, qui est au fond la seule réponse de 51 qui peut être apportée à ces populations qui demandent une protection, ne correspond plus par sa définition à la réalité des phénomènes que nous avons à traiter, qui vont peut-être s'accentuer encore un peu avec le problème des migrations environnementales. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir repenser la totalité de ce problème en se demandant comment nos sociétés sont susceptibles de gérer un problème qui ne concerne qu'une toute petite partie du problème plus général dans lequel qu'ils ont réussi d'une certaine manière à gérer en intégrant à leur économie, même parfois avec une nécessité de l'intégrer à leur économie. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que j'essaie de faire comprendre, c'est que ce qui apparaît comme le problème central est en réalité le bout d'un problème plus général qui fonctionne, lui, de manière parfaitement intégrée à l'économie mondiale.
Alors, dans une note publiée sur le site de l'IRIS l'an dernier, en décembre 2020, vous parliez du crime organisé qui se greffe sur ces mouvements migratoires, qui en profite, est-ce que vous pouvez un peu démonter le mécanisme et comment le crime organisé est venu sur ce marché? de façon relativement nouvelle.
Il y a une demande. Dans la mesure où on ne peut pas accéder légalement, pour la partie de la population que j'évoque, on ne peut pas accéder légalement au marché du travail et aux pays, dans les pays européens, aux États-Unis, etc., bah, effectivement, cette demande, elle cherche une offre. Et si l'offre légale n'existe pas, ce sera donc une offre illégale ou criminelle. Donc, évidemment, les réseaux criminels, qui sont, par leur définition, le crime organisé avec un caractère polyvalent, la drogue, la traite d'êtres humains, d'autres activités, s'est saisi de cette question et a notamment profité de l'opportunité qu'a représenté la crise migratoire des années 2015-2016 pour faire des profits conséquents. On estime grosso modo entre 7 et 9 milliards d'euros le produit retiré par ces réseaux criminels du trafic de migrants dans cette période pour les aider à franchir les frontières qu'ils essayaient.
Au niveau mondial ou
à niveau mondial, oui.
Ou vers au niveau mondial, européen.
Mais d'accord. C'est un montant considérable. Le chiffre d'affaires grosso modo de la drogue est aux alentours de 30 à 40 milliards.
Donc le trafic d'êtres humains, finalement, le trafic de personnes.
Alors c'est différent. Le trafic d'êtres humains rapporte beaucoup plus. Le trafic d'êtres humains, c'est, alors que ça concerne beaucoup moins de personnes, rapporte beaucoup plus. Que le trafic d'êtres humains, c'est la différence de. Parce que y a, voilà, c'est toute la difficulté. Il y a la traite, qui elle rapporte beaucoup plus, mais qui concerne moins de personnes, essentiellement des femmes, pour l'exploitation sexuelle, et qui représente des sommes tout à fait
considérables. Mais il y a parfois un enchevêtrement, puisque oui, beaucoup de migrants sont ensuite pris en otage pour être placés sur le marché de l'esclavage sexuel.
Absolument, il peut y avoir un mélange entre les deux. C'est des situations qu'on connaît. On les connaît en Libye, on les connaît même en Italie.
Parce que est-ce que les filières sont les mêmes? Disons que est-ce que c'est le crime organisé qui étend son activité à une activité nouvelle, le trafic de migrants, ou est-ce que ce sont des filières particulières qui viennent créer un marché nouveau et une filière nouvelle?
Non, alors les réseaux criminels du crime organisé, ceux qui notamment font du trafic de drogue, de la traite d'êtres humains, etc., se sont emparés évidemment de cette opportunité pour réaliser des profits nouveaux. Pour autant, on peut pas réduire le trafic de migrants à l'intervention de ces réseaux criminels ou à leur intégration dans des réseaux criminels qui par ailleurs les exploitent. Soit ces réseaux effectivement procèdent à du trafic de migrants, mais restent dans ce créneau sans basculer sur la traite, parce qu'ils ont intérêt évidemment pour assurer, si j'ose dire, leur crédibilité à ne pas être confondus avec ceux qui vont des gens qui vont en profiter pour exploiter des personnes. Soit on a affaire à des réseaux qui sont extrêmement ramifiés et qui vont solliciter, selon les opportunités, des interlocuteurs pour du trafic de drogue, pour du trafic d'êtres humains.
Mais celui qui veut partir, qui s'adresse à un trafiquant, on ne sait pas s'il tombe sur un trafiquant honnête
qui va le
conduire à bon port ou quelqu'un qui va le réduire en esclavage.
Non, vous avez quelques réseaux qui sont... Alors, dans la mesure où ces personnes sont démarchées depuis leur pays d'origine, ou en tout cas... établissent le contact depuis leur pays d'origine. Les réseaux en question n'ont pas intérêt, entre guillemets, à être identifiés comme des réseaux au bout desquels on n'arrive pas. C'est-à-dire que, évidemment, les choses se savent et ça peut évidemment produire des conséquences sur leur propre marché. On a d'ailleurs des exemples.
C'est une volonté de crédibilité du commerçant, alors.
Ben, malheureusement, on peut le présenter comme ça. Alors, évidemment, tout ça n'est jamais garanti, notamment parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer.
Enfin, si celui qui est parti par tel réseau donne de ses nouvelles arrivées en Europe, ça veut dire que le réseau fonctionne.
Ça veut dire que le réseau fonctionne. Ceci dit, ça ne fonctionne pas toujours avec cette de bout en bout, c'est-à-dire que souvent celui qui part n'a les moyens de payer qu'une partie du voyage, et donc on va l'amener à un point X, mais qui n'est pas le point d'arrivée. Au point X, il essaiera de reprendre des contacts avec ce réseau ou avec d'autres pour essayer de franchir une nouvelle étape, parce que la plupart de celles et ceux qui sont dont on malheureusement constate le drame à travers les ce qui s'est passé pendant la Manche ou en Méditerranée sont ceux qui sont les moins bien lotis dans cette affaire. Ceux qui ont des revenus suffisamment conséquents négocient directement, par exemple, de faux visas, de faux documents diplomatiques, à partir desquels ça coûte très cher, mais ils vont accéder directement par avion ou par bateau.
Revenons au cas de la Manche, parce que là, vous parlez des gens qui contactent ceux qui veulent partir sur place, mais ceux qui sont autour de Calais ou sur les côtes françaises pour aller en Angleterre, ils sont plus chez eux. Donc, comment se fonctionnent ces filières? Qui vient les contacter et comment fonctionnent les filières de ceux qui font le dernier passage ou qui promettent de faire le dernier passage entre la France et l'Angleterre?
Alors, c'est assez paradoxal parce que certains donc sont presque à la dernière étape d'un mouvement qui a été organisé depuis l'origine, donc qui d'une certaine manière sont toujours en relation avec les passeurs avec lesquels ils ont travaillé, qui vont réaliser la dernière étape, mais beaucoup sont plutôt dans la situation que j'indiquais, c'est-à-dire ont franchi une étape après l'autre en fonction des moyens qu'ils ont pu mobiliser, et quand ils arrivent à la frontière anglaise, enfin quand ils sont sur la côte de la Manche et qu'ils veulent passer de l'autre côté, ils cherchent une nouvelle solution et ils sont approchés par des réseaux qui peuvent être d'ailleurs soit des tout petits réseaux, il existe parce que la demande s'adapte, il existe des situations assez particulières dans lesquelles le propriétaire d'un bateau, un pêcheur britannique ou français, va se mettre en relation avec un garagiste qui a lui-même un camion, qui va organiser le départ. Et puis évidemment, les gros outils et les grosses machines criminelles, qui se disputent d'ailleurs en règle générale, ces migrants dans des conditions qu'on imagine assez épouvantables, puisque c'est un capital qui se dispute. Et il y a des règlements de compte, il y en avait régulièrement à Grand-Synthe, ça se produisait régulièrement, parce qu'ils essayent de mettre la main sur des groupes pour les contrôler et ensuite les transférer. Un transfert, c'est 6 000 euros à peu près. Donc ça
comment on sait où sont les migrants potentiels? Comment ne pas mieux surveiller les trafiquants?
Ben, on sait où sont les migrants potentiels. Comment on a démantelé les camps? C'est le paradoxe. On estimait que les camps étaient lieux de regroupement qui facilitaient le travail des passeurs. On a donc démantelé les camps en demandant aux migrants de partir sur des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et autres en venant la France entière. Sauf que soit les personnes refusaient de partir, soit lorsqu'elles partaient, elles revenaient dans un désordre complet. Elles pouvaient pas se regrouper dans des camps, mais les passeurs trouvaient néanmoins les moyens de les contacter parce que ces personnes veulent passer de l'autre côté de la frontière. Donc on est dans une situation totalement fermée. Il n'y a pas véritablement au regard des mesures que l'on prend, puisqu'on est confronté à des gens dont la détermination est de passer, qui de toute manière trouveront les moyens d'essayer, à défaut d'y réussir, d'essayer de passer, en fonction des moyens qui sont les leurs, comme je l'indiquais. Mais le fait d'avoir démantelé les camps n'a pas résolu le problème des passeurs, qui rentrent en contact avec des personnes qui sont encore, me semble-t-il, beaucoup plus fragiles et beaucoup plus exploitables, du fait qu'elles sont dispersées, que lorsqu'elles étaient dans les camps, dans lesquels, en revanche, se produisaient des luttes d'influence extrêmement violentes entre types de réseaux pour tenter de contrôler.
Un moyen de durcir de façon efficace la répression contre les passeurs?
Elle l'est aujourd'hui. On a d'ailleurs, la police française a démantelé très récemment un réseau qui était composé d'ailleurs d'Afghans, de Vietnamiens, de Chinois qui opéraient sur le nord de la France. Les peines encourues sont déjà aussi extrêmement lourdes. Les moyens mobilisés sont importants. Mais je me permets de me répéter, dans la mesure où la détermination de ces hommes et de ces femmes de passer sur toutes ces hommes, c'est de passer de l'autre côté est forte, il y aura toujours une offre qui se présentera pour leur permettre.
C'est leur dire allez-y.
Non, la solution c'est pas de leur dire allez-y, mais comme je l'indiquais, c'est de réfléchir pareil. Il n'y a pas de solution immédiate qui va résoudre le problème. Il faut travailler à cela par étapes. La première étape, c'est, comme je l'ai indiqué, régler les problèmes humanitaires les plus importants, faire en sorte que celles et ceux qui sont attendus de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont déjà une famille, ou bien qui sont des enfants, qui ont des parents, que la Grande-Bretagne fasse l'effort nécessaire pour opérer.
Sauf que là, tant que Boris Johnson sera au pouvoir,
oui, ce sera très difficile à obtenir.
Il y a
aussi un principe de réalité qui peut finir par s'imposer. Pour le reste,
qu'est-ce que craint Boris Johnson de la situation? Une émotion de l'opinion publique? On l'accuse d'être co-responsable, mais sinon il semble.
Il a fait la promesse de libérer entre guillemets la Grande-Bretagne de travailleurs étrangers ou de candidats étrangers au travail qui viennent prendre le travail des Britanniques. Donc il n'a pas envie de renoncer à cette.
Donc
il y a quand même assez peu. C'est lié au Brexit.
Il y a quand même assez peu d'espoir que la position britannique change.
Oui, mais il y a aussi assez peu d'espoir qu'on arrive à résoudre la question des migrants de manière générale dans les quelques mois, quelques années qui viennent. C'est un problème.
Donc on est face à une impasse.
Ça y ressemble, ce qui veut dire que si on en prend conscience, on va peut-être commencer à réfléchir à des issues qui ne sont pas celles qu'on privilégie, c'est-à-dire qui consistent à manier le bâton en disant vous allez voir par la répression des passeurs.
Est-ce que les 27 sont unis sur ce point-là, ou est-ce que les 26 se disent c'est la France de se démerder?
Les membres de l'Union européenne sont en cours de discussion pour revoir à la fois Dublin sur le droit d'asile et Schengen sur la circulation. Ça fait plusieurs fois que des propositions sont mises sur la table. La Commission vient d'en remettre sur la table d'ailleurs sur Schengen. On verra bien sur quoi tout ça débouche. Ça paraît extrêmement difficile d'arriver à un accord, puisque tout le monde se surveille un peu et tient un discours à l'intention de son opinion publique, qui n'est pas forcément facile à concilier avec celui du voisin. Il y a peu de chances qu'on avance très très loin. Emmanuel Macron en a fait un de ses objectifs de la présidence française, on verra vers quoi tout cela peut aller. Mais je pense que il faut imaginer une évolution, un aménagement progressif des problèmes dont on parle. La seule façon de traiter ces questions, c'est d'arriver à les regarder en face, se dire que l'on a, comme je l'indiquais, un problème qui est à la marge d'un phénomène plus large de mouvement de population dans le monde, que ce problème est lié à ce que les règles d'accès à nos marchés du travail sont bloquées. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi elles le sont, si elles doivent le rester, quelles sont les réponses que l'on apporte dans les pays dans lesquels ces mouvements s'opèrent. On a beaucoup critiqué, moi je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction, les décisions de l'Union européenne consistant à négocier en direct avec les États d'origine ou les États de passage, les conditions à partir desquelles on peut éviter. Je préfère que les gens, je le dis même indépendamment de toute considération humainement, que les gens soient en Turquie dans les conditions où ils se trouvent, qui ne sont pas si mauvaises, même si évidemment on souhaiterait pas les partager, mais enfin on regarde ce que peuvent vivre les réfugiés dans d'autres situations, elles ne sont pas si mauvaises, que de les voir traverser les océans ou les mers avec les risques que ça représente pour leur vie. Donc de la même manière qu'on peut espérait qu'à l'origine, au point de départ de ces pays, au Niger ou ailleurs, des discussions soient engagées entre l'Union européenne et les États pour permettre d'apporter des réponses à des situations, notamment locales, qui ne vivent plus que du trafic. Si vous allez dans certaines villes, effectivement, de la zone subsaharienne, vous avez des villes qui ne vivent que du trafic, c'est-à-dire que l'économie locale est alimentée par le début du trafic et par le départ de migration. Si on n'apporte pas de solution à ça, c'est-à-dire si on ne trouve pas de substitut à cette économie-là, il n'y a aucune raison que le mouvement s'arrête.
Merci Gaëtan pour ces explications pédagogiques sur les relations entre le crime organisé et notamment sur cette problématique des mouvements migratoires.
Merci beaucoup.